À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Que deviennent les migrants de Bourg-en-Bresse? Des membres du collectif Solidarité Migrants, mobilisés pour défendre les droits de ces hommes, ces femmes et ces familles, sont en direct dans nos studios. Édition 2019 du Jumping International, le concours équestre burgien a refermé ses portes. Après 4 jours de compétition, Clarisse, collégienne dans la Loire, passionnée d'équitation, et pour la première fois un micro à la main, a interviewé des cavaliers et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. Salomé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au collectif Solidarité Migrants de Bourg-en-Bresse depuis 1 an et demi.
C'est ça.
À vos côtés, Carole Gerbeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collectif depuis toujours.
En effet.
Les élections européennes, c'était hier dimanche, dans l'Ain comme au niveau national. Le Rassemblement national arrive en tête devant La République En Marche et Europe Écologie Les Verts. Mesdames, une réaction à ces résultats?
Salomé.
Salomé.
Ben évidemment, la tristesse, la déception.
Pourquoi?
Mais parce que je m'étonne que aujourd'hui, dans un monde où chacun a à l'esprit les grands enjeux qui nous attendent, par rapport notamment au climat, il n'y ait pas un plus grand sursaut. Mais si on s'en réfère à ce qu'ont voté les jeunes, les chiffres donnent bien plus d'espoir. Donc il va peut-être falloir leur donner plus vite et plus tôt la parole.
Carole Gerbeau?
Moi je suis évidemment très triste devant les résultats que nous avons connus hier soir, mais bon, c'était à peu près la même chose aux dernières européennes, en tout cas en ce qui concerne le Rassemblement National, qui n'est pas un parti qui va dans le sens de l'accueil des migrants, loin s'en faut. Et moi, je suis très triste que cette bataille pour les européennes ait eu lieu principalement entre ce que représente Macron aujourd'hui et la politique libérale qu'il met en place et le Rassemblement National qui, quand même, martèle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées racistes dans son programme. Moi, je fais effectivement un lien avec le combat pour le climat parce que, de toute façon, je pense que toutes les sociétés aujourd'hui doivent se préparer à accueillir son voisin dans la mesure où on parle beaucoup du tri des migrants entre ceux qui seraient des réfugiés politiques, ceux qui seraient des réfugiés économiques. Alors, on accueille les politiques et pas les économiques, mais il va y avoir les climatiques. Et de toute façon, alors, on va trier comment à ce moment-là? Aucune société ne peut s'en sortir par le haut en refusant d'accueillir son voisin. Voilà, c'est tout simple. Et donc, cette façon de voter pour le repli sur soi, pour le fait qu'on se barricade quelque part parce qu'on a l'impression qu'on est oublié. Il y a beaucoup de gens qui votent Rassemblement National qui se sentent oubliés par les politiques actuelles et c'est bien vrai, mais le repli sur soi va dans le mur, quoi.
Le collectif Solidarité Migrants a demandé de l'aide vendredi dernier, le 24 mai. 3 familles expulsées du foyer Auguste Renoir, mi-avril à Bourg, qui se sont installées au centre social Amédée Mercier dans le quartier de la Croix-Blanche. On en est où?
On en est vraiment là, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que de toute façon, les gens qui ont un droit au logement ne sont pas logés, pendant que celles qui ont eu un droit au logement sont expulsées. Là, les personnes se sont installées effectivement au centre social. Nous avons aussi 15 autres familles que nous soutenons à Alpha 3A, au foyer Renoir, parce qu'elles vont, il leur a été demandé de partir, et que, alors qu'elles étaient logées, qu'elles étaient effectivement pour certaines d'entre elles, certaines fois déboutées du droit d'asile, mais qu'elles avaient été maintenues dans leur logement parce qu'elles étaient leur situation les rendait vulnérables et que du jour au lendemain on leur dit ben voilà vous sortez à telle date sinon on demande l'expulsion. Donc on a toute une série de personnes qui se retrouvent dehors et on est effectivement, je rappelle qu'on est hors du plan froid, hein, c'est-à-dire qu'on va vivre les 6 mois prochains dans des situations de ce type. Alors à chaque fois, quand c'est l'hiver, ces populations font un peu plus pleurer les pouvoirs publics et donc elles sont mises à l'abri.
Mais là, je rappelle, c'est parce que le temps s'adoucit que ça veut dire qu'elles ont moins de besoins.
Elles n'ont pas moins de besoins, bien, bien au contraire. Et puis surtout, je rappelle aussi qu'en plus de toutes ces familles, il y a celles qui ont été évacuées du 40 rue des Prés de Brou, qui elles étaient justement logées pour l'hiver. Donc le collectif migrant aujourd'hui est débordé. Voilà, on est tout simplement débordé par tous les droits bafoués de ces personnes et que nous voulons défendre.
Et on parlera dans quelques minutes d'une autre situation. Alors concernant donc ces personnes qui sont au centre social à Médémercier, vous avez appelé à une mobilisation sur place pour empêcher une évacuation dès que les financeurs vont être informés. Alors les financeurs, ce sont la ville de Bourg et la CAF. Se sont-ils manifestés ?
Pas. En fait, je ne suis pas totalement au fait des derniers rebondissements de cette affaire.
Moi non plus, je n'ai pas de connaissance d'une manifestation quelconque.
Mi-mai, donc 80 personnes se sont réunies au centre social à Médémercier de Bourg-en-Bresse pour dénoncer l'expulsion du foyer Auguste Renoir. Ces mêmes personnes ont proposé à tous ceux qu'ils souhaitent d'envoyer en leur nom propre une lettre au préfet, à la direction départementale de la cohésion sociale et à Alpha 3A, l'association gestionnaire du foyer. Quelles sont les nouvelles ?
Moi, j'ai envoyé cette lettre, en effet, et je pense qu'on a été très nombreux à le faire. Pour l'instant, on est resté totalement sans réponse.
On est sans réponse, oui.
Qu'est-ce que vous avez dit dans vos lettres respectives, Salomé ?
C'était simplement pour signaler qu'on était choqués et pas d'accord avec le fait que ces gens soient mis à la rue. Nonobstant le fait qu'ils soient déboutés, enfin, peu importe, c'est une simple question de droit de l'homme. Quand il s'agit de familles avec des enfants qui sont notamment scolarisés, ou alors même des familles avec des enfants qui nécessitent des soins. Il n'est juste pas question de les mettre dehors sous prétexte qu'il y aurait besoin d'un seul coup de débloquer ces logements parce que le parc serait saturé par ailleurs. Qu'on construise des logements. Que l'État réponde à ses responsabilités.
Et pour l'instant, quelle réponse de la préfecture ? Carole Gerbeau.
Nous n'avons pas de réponse de la préfecture, hein. Nous n'avons aucune réponse de ce point de vue-là, à part les quelques indications que nous avons eues il y a quelques mois, parce que quelques associations locales ont été invitées à participer à une réunion en préfecture il y a 2-3 mois, où il a été dit qu'il a été réaffirmé la politique de non-régularisation de certaines familles qui ont pourtant vocation à rester là, puisqu'elles restent là, elles sont là depuis longtemps. Et en fait, la solution pour ces familles, c'est toujours la même, c'est de continuer à vivre là où elles sont, dehors, sans toit sur la tête et sans aucun confort pour l'éducation de leurs enfants. Donc, on est toujours...
La situation n'évolue pas, en fait.
Non, la situation n'évolue pas.
D'année en année,
elle se durcit, en fait, plutôt.
Vous avez vraiment l'impression qu'elle se durcit ?
Ah oui, elle se durcit, parce que il y a quelques années, vous aviez des personnes ou des familles qui, au bout de... Vous avez cette solution qui, au bout de 5 ans, vous permet éventuellement de déposer un dossier en préfecture en demandant votre régularisation au titre discrétionnaire du préfet, parce que vous êtes intégré, parce que vos enfants vont à l'école, parce que vous êtes là depuis un moment et que vous pouvez le prouver, etc. Et ça, pour un grand nombre de familles aujourd'hui, ce n'est plus possible. En tout cas, c'est tout à fait bloqué. Donc... C'est pour ça que dans ce collectif migrant, enfin de soutien aux migrants, nous sommes pour la régularisation de tous les sans-papiers. Finalement, nous n'étions pas d'accord ensemble au début, quand nous nous sommes constitués. Et aujourd'hui, nous le sommes parce que de toute façon, quand vous vivez auprès des personnes dont le seul sort est de rester à la rue, c'est impossible à supporter. C'est impossible à supporter. Et de toute façon, il n'y a pas de politique réelle, à part celle-là, cette espèce de politique de rejet, il n'y a pas de politique réelle de concernant l'immigration en France, puisqu'il suffirait d'anticiper, de réfléchir à comment on organise le logement de ces personnes. Il y a des locaux pour loger ces personnes. Il y a des locaux. Je rappellerai juste un exemple. Il y a quelques années, nous sommes restés un an avant d'être expulsés dans des locaux de la DAPI qui logeaient à peu près entre 120 et 150 personnes. Et pendant un an, nous n'avions entendu parler de rien. C'est-à-dire que tout se passait bien. Il n'y avait aucun problème. Et les gens étaient sous un toit. Donc, moi, je pense qu'il y a non seulement il n'y a pas de politique d'accueil, ni, elle n'est pas réfléchie. Mais en plus, ce que je trouve très grave, c'est que la façon de fonctionner fait que on montre les migrants comme étant des problèmes. À partir du moment où vous laissez les gens à la rue, les autres personnes, celles comme vous et moi qui habitez quelque part, vous passez, vous les voyez, vous dites « Ah, c'est un problème. » Voilà, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Une fois que les gens sont logés, les gens vivent comme vous et moi. Ce n'est pas un problème. Or, ils sont montrés à la vindicte toujours, toujours, toujours.
C'est ce qui vous a convaincu de vous mobiliser, Salomé. Donc, je rappelle que vous êtes au collectif Solidarité Migrante Bourg-en-Bresse depuis un an et demi.
Oui, c'est le fait que, ben, à force de lire, d'être informé de ces choses-là et d'avoir le sentiment de ne rien faire, ben, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd à supporter pour soi-même. Et si, au moment où nous avons eu connaissance de l'existence du collectif, ça représentait pour moi, mon compagnon et un certain nombre d'amis qui nous sommes rallié au collectif un peu dans la même vague, l'opportunité de faire, même à notre petit niveau, un minimum de lutte pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe.
Est-ce que vous avez découvert des choses? Qu'est-ce qui vous a le plus surprise en rejoignant le collectif?
J'ai aimé notamment le fait que, tout en étant un collectif composé de courants assez variés, à la fois politiques mais aussi humanitaires, on s'efforce de passer outre les éventuels clivages idéologiques pour poser des actes avec pour seule préoccupation celle du respect des droits fondamentaux de l'humain. Et ça m'a enthousiasmée, je dois dire.
Carole Gerbeau, vous le disiez, donc le collectif est débordé, puisqu'il y a aussi une situation à gérer, celle de 17 migrants en procédure qui sont installés dans une maison avenue du Mail à Bourg, une maison réquisitionnée par le collectif. Fin avril, un huissier est passé pour constater l'occupation. Bourg Habitat, le propriétaire, a porté plainte pour dégradation du bien d'autrui, entrée par effraction et violation de domicile. Vous l'avez annoncé sur la page Facebook du collectif, je cite le poste. Il a relevé des identités et a annoncé que l'assignation en vue d'un procès nous serait très prochainement signifiée par écrit. Donc ça, c'était fin avril. Un mois après, on en est où?
Eh bien, l'assignation a eu lieu le 2 mai, si je me souviens bien. Et nous avions constitué des dossiers d'aide juridictionnelle pour les personnes qui étaient assignées. Nous n'avions pas les réponses à l'époque. Et donc, il y a eu un report. Et donc, l'audience sera maintenant le 6 juin. Et donc, la procédure suivra son cours. En tout cas, avec un des événements de cette procédure, sera le 6 juin au tribunal.
Donc le 6 juin au tribunal, qu'est-ce que le collectif prévoit?
Ah ben, nous prévoyons d'être nombreux à la fois, enfin aussi dehors, en dehors du tribunal, pour alerter, continuer d'alerter sur la situation qui est faite des migrants qui ne sont pas du tout rentrés avec effraction, mais qui sont dans une maison qui était ouverte et qui ne servait à personne depuis de nombreuses années. Et dans ce sens, d'ailleurs, nous n'avons pas fait que soutenir quotidiennement les migrants. Nous avons demandé un rendez-vous à Bourg Habitat, qui est le propriétaire de cette maison, et nous rencontrerons Bourg Habitat la veille, le 5 juin, pour essayer de discuter de comment on fait pour que, à la fois, le droit de la propriété, mais aussi le droit au logement des personnes en difficulté soit respecté. Et nous avons des propositions, dont l'une est de pouvoir signer une convention d'occupation temporaire avec le propriétaire de cette maison, pour que pendant un certain temps, les migrants y soient logés de façon légale, et non pas de façon telle que le prévoit un squat, comme ils disent, en fait. Voilà, c'est-à-dire que quand les personnes parlent de squat, c'est parce que c'est considéré comme illégal, comme c'est une occupation sans droit ni titre. Nous préférerions que les choses se discutent et aboutissent au logement des personnes.
Le vendredi 14 juin, au centre social Amédée Mercier, le collectif Solidarité Migrants Bourg-en-Bresse organise une soirée autour de la procédure Dublin. En quelques mots et concrètement, qu'est-ce que c'est, cette procédure?
C'est une procédure qui a été mise en place il y a 2-3 ans, je pense.
Plus longtemps. Et plus longtemps.
Tu as, en tout cas, qui fait que un migrant doit déposer son dossier dans le pays de l'UE où il rentre en premier.
Donc, par exemple, s'il arrive en Italie.
C'est ça.
Il doit déposer son dossier en Italie.
Et du coup, à partir du moment où en Italie, son identité est relevée, ainsi que ses empreintes digitales et je pense encore d'autres signes visant à l'identifier, il n'y a que là qu'il pourra faire sa demande d'asile.
C'est-à-dire que si après, il vient en France, ensuite on va le renvoyer systématiquement voilà. en Italie.
Ce qui permet une stratégie d'épuisement en fait, des migrants qu'on force à se... qu'on envoie sans arrêt plus loin. Parfois d'ailleurs en leur faisant miroiter des espoirs qui sont déçus. Mais en tout cas, la stratégie clairement, c'est de les fatiguer. De les épuiser en les envoyant sans arrêt d'un nouveau point à un autre point, y compris quand ils avaient commencé un processus d'intégration. Donc c'est parfaitement cynique.
Qu'attendez-vous avec cette soirée, Carole Gerbeau?
En fait, je pense qu'il y a un grand travail à faire sur l'opinion, parce que c'est les discours qu'agite sans arrêt le Rassemblement National, entre autres, hein, mais il n'y a pas que. Il y a évidemment aussi Salvini en Italie et tous les autres en Hongrie, Fidesz. C'est d'associer, de faire l'amalgame entre le migrant et une menace, d'agiter des peurs.
Oui, parce que par exemple, si je prends la profession de foi du Rassemblement National, retrouver les frontières de la France et poser des frontières à l'Europe pour en finir avec l'immigration massive. Ils disent ça, c'est possible.
Mais elle n'a rien de massive. Elle a toujours été là. C'est un fait de tout temps. Et puis, c'est un droit fondamental des gens de bouger et d'aller s'installer où ils veulent. Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, voilà, c'est un peu tout ça, le travail qu'on a à faire auprès de l'opinion publique. D'inverser enfin, la vision qu'on en a de ces migrants. D'ailleurs, on les appelle migrants d'une manière assez cynique, elle aussi. Ça voudrait dire qu'ils sont là, mais pour un temps, c'est le temps de leur migration. Puis après, ils vont bien disparaître. Bah, pourquoi ils ne resteraient pas ici, tout simplement, où on pourrait vraiment en avoir besoin, en plus? Et de toute façon, on a tout à apprendre les uns des autres. Et on n'a juste pas le choix. Si ces gens font le choix de leur vie, du péril de leur vie pour quitter leur pays, je pense qu'on n'a pas à les interroger sur les raisons. Elles doivent être largement suffisantes pour qu'ils prennent le risque de mourir pendant leur voyage. À partir du moment où ils sont chez nous, on les accueille.
Et donc il y aura aussi des personnes qui seront là pour cette soirée, pour témoigner justement des difficultés qu'entraîne cette procédure Dublin.
Oui, certainement. Mais c'est sûr que ce que dit Salomé est tout à fait juste. Nous, ce qu'on souhaite quand on organise des débats de ce type, que ce soit sur la procédure de Dublin ou d'autres procédures prévues dans la Convention de Genève, c'est d'inverser la vision des choses. Et de la même manière, on parlait du climat tout à l'heure, mais alors moi j'ai tendance à penser ça, mais je représente dans le collectif de solidarité avec les migrants le NPA, mais moi je pense que sans partage des richesses, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui ne va pas, c'est-à-dire que comme on ne veut rien partager, comme aucune politique ne va dans le sens du partage des richesses, on est bloqué du côté du climat, parce que je ne pense pas qu'on y arrivera si on continue de produire autant de cette façon complètement irraisonnée et de produire que pour faire du profit. Et c'est la même chose pour l'accueil des fameux migrants qui sont juste des personnes qui passent d'un pays à l'autre et qui auraient toute leur place si l'argent n'était pas capté dans ce système capitaliste. Voilà, je ne veux pas faire de publicité pour ce que je pense, mais je le pense très très profondément.
Vous avez quand même de l'espoir avec l'Europe, qu'il se passe quelque chose? Parce que c'était quand même une question qui devait se régler au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire cet accueil de ces personnes qui n'a jamais été résolu. Est-ce que vous avez l'espoir que ça vienne parmi les débats et que des choses soient faites?
En tout cas, il le faudrait, parce que je crois qu'il y a quand même une grande partie aussi des gens, des citoyens. Enfin, grande partie, je suis peut-être naïve, mais il y a une vraie mobilisation autour de... de cette question. Vous avez forcément entendu parler des états généraux des migrations qui se sont tenus tout au cours du printemps dernier et qui ont été l'occasion d'un travail formidable et d'une vraie convergence d'idées. Je pense qu'il y a des solutions qui émergent et qu'il va falloir les amener aux oreilles des politiques, se faire entendre, pour qu'en haut lieu, on s'empare enfin de ce sujet, au lieu de s'en débarrasser avec des procédures qui consistent simplement à mettre la chose sous le tapis ou à la renvoyer à son voisin.
Salomé, Carole Gerbeau, merci. Vous êtes membre du collectif Solidarité Migrante Bourg-en-Bresse. Donc, je le rappelle, le vendredi 14 juin à 19h au Centre Social Amédée Mercier, une soirée pour informer sur la procédure Dublin, ses conséquences et la situation à Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Ma passion pour les chevaux, en fin de compte, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, parce que mes parents étaient dans les chevaux. Je faisais déjà du concours et j'ai toujours vécu avec les chevaux autour de moi. J'étais déjà tout le temps dessus. J'ai eu de la chance.
Restez à l'écoute du 90 FM. On se retrouve dans quelques minutes.
Frozen.
Célestine sur Radio B avec Lenny. Le groupe originaire de Mâcon est à l'affiche du festival Luciole in the Sky organisé par la Cava Musique. Mauve Célestine sera sur scène le vendredi 14 juin. Soyez à l'écoute de Radio B, on vous fait gagner des places. À noter, il ne reste que deux pour le samedi 15 juin. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. 600 chevaux, plus de 400 cavaliers, 4 jours de compétition. La 29e édition du Jumping International de Bourg-en-Bresse a refermé ses portes hier, dimanche. Dernier temps fort, le Grand Prix 4 étoiles de la ville de Bourg-en-Bresse. Une compétition remportée par le Suisse Niklaus Rutzki et son cheval Karasina. Le Français Laurent Goffinet et la Française Marie de Monte sont arrivés à la 2e et à la 3e place. Clarisse, apprentie reporter pour Radio B, a rencontré deux cavaliers, une femme, un homme, deux générations. Mégane Moissonnier, originaire de Laon, a 21 ans et Roger Yves Bost a 53 ans. La Lantaise a remporté fin avril le Grand Prix du Grand National de Cluny.
Bonjour, comment est née votre passion pour les chevaux ?
C'est pas vraiment moi, puisque mes parents sont dans les chevaux depuis toujours aussi. Donc je suis née là-dedans et voilà, la passion m'a pris depuis toute petite.
À quel âge avez-vous commencé les cours d'équitation ?
J'ai commencé chez moi, à vrai dire. Et puis j'ai commencé les cours vraiment, je pense, à l'âge de 4 ou 5 ans, à la SEB à Bourg-en-Bresse, où j'ai passé mes premiers galops.
Quels souvenirs gardez-vous de votre premier cheval ?
Alors, mon premier poney, on va dire. Puisque c'est avec celui-là que j'ai commencé, il s'appelait Pollux. C'était un petit poney bai, il était épis noir. J'en garde des très bons souvenirs et des moins bons parce que je me suis aussi cassé le bras avec lui. Mais c'était un gentil poney, je l'aimais bien.
Est-ce que c'est plus une passion ou votre métier ?
Alors actuellement, c'est un petit peu des deux puisque je suis encore étudiante. Je suis en plein examen de BTS comptabilité gestion, mais ça me prend la grande partie de mon temps quand même de monter à cheval. Et depuis que Laurent Guillet s'est blessé, c'est moi qui monte ses chevaux, donc on peut dire que je suis semi-professionnelle.
Combien de fois montez-vous par semaine ?
Tous les jours. Ouais, tous les jours, sauf quand vraiment je suis en cours toute la journée et que j'ai absolument pas le temps, mes parents et mon cousin s'occupent de mes chevaux.
Quelle est la clé de votre réussite ?
La clé de ma réussite, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est le travail surtout. J'ai toujours travaillé, je suis très pointilleuse au niveau de tout ce que j'entreprends, surtout dans les chevaux. Je préfère que ce soit fait par moi-même, que ce soit bien fait. Au moins j'en voudrais qu'à moi-même si c'est mal fait. Donc je pense que ce serait ça.
De quoi êtes-vous la plus fière ?
On va dire d'être arrivée à ce niveau-là assez jeune. On me dit que j'ai du talent, je pense qu'il en faut pour arriver à ce niveau-là. Mais de là à dire que je suis une des rares à arriver à ce niveau-là, je pense pas. C'est le travail et...
Vous vous voyez où dans 4-5 ans ?
J'aimerais continuer un peu mes études et avoir quelque chose de stable à côté. Mais je me vois pas non plus arrêter l'équitation. C'est quelque chose que je ferai toute ma vie, je pense. Quand on a cette passion-là, c'est dur de s'en sortir. Dans 4-5 ans, probablement dans les chevaux encore.
Et JO 2024 ?
Pourquoi pas ? Si on peut y arriver et que l'occasion se présente, on dit jamais non, hein, des échéances pareilles.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Oh, y en a pas mal. Mes titres de championne de France, des concours où j'ai eu des bons résultats, l'année dernière sur le circuit du Global Champions Tour, où j'ai effectué mes premières 1m60 avec le cheval que je montais depuis 4 ans, que j'ai formé moi-même. C'était une assez grande fierté de pouvoir le monter sur ces épreuves-là. Et dernièrement, j'ai gagné mon premier Grand Prix 1m50 avec Sultan du Château, un cheval de Laurent Guillet. Donc, le dernier souvenir, c'était celui-là.
Quel conseil nous donneriez-vous pour progresser dans ce sport ?
Le travail, la remise en question. En arrivant sur ce niveau-là, moins. Mais c'est vrai qu'on voit souvent dire c'est la faute du cheval. Bah, non, c'est peut-être aussi la faute du cavalier. Donc il faut travailler et se remettre en question quand il le faut. Je pense que ce sera déjà pas mal.
Mégane Moissonnier au micro de Clarisse Apprenti, reporter pour Radio B. La cavalière nantaise, aujourd'hui semi-professionnelle, est en concours tous les week-ends depuis plusieurs années. Roger-Yves Bost est l'un des cavaliers de l'équipe de France de saut d'obstacles depuis 20 ans. Champion d'Europe individuel en 2013, il a remporté la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio il y a 3 ans.
Ma passion pour les chevaux, en fin de compte, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, parce que mes parents étaient dans les chevaux. Ils faisaient déjà du concours et j'ai toujours vécu avec les chevaux autour de moi. J'étais déjà tout le temps dessus, j'ai eu de la chance.
À quel âge avez-vous commencé les cours d'équitation ?
Oh, les cours, je sais pas, 4-5 ans peut-être à l'époque. Il n'y avait pas de poney à l'époque trop, alors du coup, ils me mettaient sur un cheval comme ça pour marcher. Après, j'ai fait les cours, j'ai passé les c'était pas les galops avant, c'était les degrés. J'ai eu les premiers degrés à 9 ans, 10 ans. C'était 4-5 galops, 4, ça leur équivalait au 5e galop, un truc comme ça. Et mon deuxième degré, le 7e galop à 12 ans. Première compétition officielle à 12 ans.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier cheval ?
Non, mais j'en ai eu beaucoup, mais sur le premier, c'était un cheval que mon père montait avant. Il m'avait confié un peu pour faire les petites épreuves. Et c'était que du plaisir, oui. J'ai appris beaucoup parce qu'il avait déjà du dressage et je pouvais faire des changements de pied. C'était important d'avoir un cheval à mettre d'école, pas un cheval qui était vraiment sauvage. C'est important quand on est jeune d'avoir un cheval qui sait faire des choses. Ça, tu le demandes, au moins tu ressens des choses.
Combien de fois montez-vous par semaine ?
C'est entre 6 et 12 chevaux par jour, tous les jours.
Avez-vous un coach personnel ?
J'ai eu mon père quand j'étais jeune. Après, j'ai travaillé avec un entraîneur, Jean Dorgex, qui était un grand homme de cheval, qui parlait aux animaux et tout. Ça m'a pas mal aidé. Et sinon, maintenant, j'ai plus de coach, c'est moi. Et je suis toujours dans les gros concours et on est entre cavaliers de 5 étoiles. Du coup, on se parle entre nous. Et on a nos coachs, en fin de compte, on se parle nous-mêmes et on a les meilleurs cavaliers avec nous. Et on a un problème, on parle avec eux. C'est comme ça qu'on échange.
Quelle est la clé de votre réussite ?
Oh, je sais pas. D'aimer mes chevaux, là c'est le plus important.
Et de quoi êtes-vous le plus fier ?
Le plus fier, c'est d'avoir réussi à faire des belles choses, de toujours rester à ce niveau-là depuis très longtemps, et la médaille d'or olympique, quand même. Pas si mal, c'est un rêve d'enfant. Je pensais jamais l'avoir et je l'ai eu.
Comment transmettez-vous votre passion ?
Bah, je donne des cours, j'essaye de montrer qu'il faut toujours rester humble avec un cheval, toujours se remettre en question, les écouter, et je le transmets comme ça, les gens sont contents. J'ai des élèves qui viennent chez moi pour voir comment je fonctionne, je leur donne des cours, et ça se transmet comme ça, sur le tas.
Vous voyez où dans 4-5 ans ?
4-5 ans, c'est les Jeux de Paris, 2024, j'espère encore être là, et on verra après.
Quel conseil nous donneriez-vous pour progresser dans ce sport ?
Ah, tu dois toujours aimer tes chevaux, t'en occuper, ils te donneront toujours plus si tu t'en occupes. Et bien écouter, regarder les cavaliers monter, prendre des petites idées, essayer de les imiter quand même de temps en temps. Mais toujours se remettre en question, écouter son coach aussi. Après, il y a plein de choses, mais c'est sur le tas, à force de répéter, faire plein d'exercices. Comme les pianistes, c'est des gammes, il faut avoir plein de gammes. Comme ça, après, tu peux ressortir ça en piste.
Roger-Yves Bost, cavalier de l'équipe de France de saut d'obstacles depuis 20 ans, médaillé d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Une interview de Clarisse Apprenti, reporter pour Radio B. Nous avons aussi rencontré Pascal Boutreau, grand reporter à l'équipe pendant 15 ans. Il est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint d'Equidia, chaîne télé dédiée aux courses hippiques.
L'équitation et après journaliste. Ou journaliste et l'équitation ?
Ah, il n'y a pas de doute, c'est journaliste et ensuite l'équitation. Parce que moi, à chaque fois je dis il y a 10 ans, mais maintenant ça fait il y a 15 ans, je n'avais jamais vu un cheval. Donc ça valait une grosse cote de dire qu'un jour je commenterais les épreuves de dressage, des JO, des machins, à la télé, parce que je n'avais jamais vu de cheval. Et puis la vie, moi j'étais avant tout journaliste sportif à l'équipe, où je m'occupais de plein de sports, dont l'équitation. Mais comment on pouvait traiter de l'escrime, de l'haltérophilie, du foot, du hand, il y avait l'équitation dedans. Et en 2011, Equidia est venu me chercher pour m'occuper des sports équestres sur la chaîne. Et je suis parti là-dedans. Mais Mais voilà, j'étais même jamais monté sur un cheval quand je suis arrivé à Equidia. Voilà, j'ai pris des cours et je suis galop 2 maintenant, respect, pour savoir un petit peu les sensations que ça faisait de monter sur un cheval, puisque je commentais des gens qui sautaient des barres très hautes, donc c'était mieux de savoir un petit peu ce que ça faisait, quoi.
Et quand on ne connaît pas ce monde de l'équitation et qu'on vous propose Equidia, vous avez hésité? Comment on prend la décision de se dire, bon, bah, je ne connais pas ce monde, un petit peu, puisque vous couvriez hein, quand même cette discipline, mais là, c'était se spécialiser, en fait.
Ah, complètement. Bah, moi, j'aime les défis. Hein. Je fais beaucoup de sport et plus c'est débile, plus j'ai envie d'y aller. Donc, faut y aller, faut tenter des choses dans la vie. Et ça aurait pu se terminer au bout de 2 mois. On aurait pu me dire, vous êtes gentil, mais ça ne va pas le faire. Et moi, j'aurais pu dire, au bout de 2 mois... vous êtes gentil, mais je ne vais pas rester. Et puis, j'y suis resté depuis 8 ans maintenant. Mais l'équitation a une particularité quand même, c'est que c'est un milieu qui est assez refermé sur lui-même. C'est un milieu, il faut des codes. Dans tous les milieux, il y a des codes à détenir pour pouvoir y rentrer. Mais l'équitation, ce n'est pas un hasard si c'est beaucoup de fils d'eux, de filles d'eux qui montent à cheval. C'est un tout petit milieu qui vit sur lui-même.
Donc, des débuts un peu difficiles.
Oui, forcément. Parce que déjà, moi, je ne suis pas du milieu.
Pas du tout, du tout.
Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas mon milieu à tous les niveaux, sportif, social, etc. Enfin, voilà. Donc on débarque un petit peu, les gens nous regardent, mais qui c'est celui-là ? Voilà, donc en plus j'ai un style qui n'était pas très équitation. Moi je suis plutôt style foot, sportif. Et bah, il faut un peu s'adapter, il faut remettre les curseurs, moi remonter, changer un peu le curseur, les gens s'habituent, et à la fin ça se passe super bien. C'est voilà, il faut qu'on se trouve. On a fini par se trouver finalement.
Et vous avez trouvé quoi, vous, personnellement ?
J'ai trouvé un métier qui demande une abnégation dingue. Là, on voit, on est sur un 4 étoiles à Bourg-en-Bresse. Quand on est journaliste, on suit surtout les épreuves 5 étoiles, les épreuves les plus prestigieuses. Mais il y a des tas de cavaliers, il y a des tas de gens qui galèrent tous les matins, qui galèrent dans leurs écuries pour réussir à vivre de leur métier, de leur passion. Et c'est pas toujours évident, voilà. Il faut avoir la chance de tomber sur un bon cheval, il faut être bon, c'est aussi, encore une fois, c'est comme moi pour le journalisme, c'est parfois les hasards qui mènent un petit peu, ben parfois le hasard fait qu'il y a une rencontre entre un cavalier et un cheval, et puis il y a des bons résultats, et puis ça y est, c'est parti. Mais voilà, c'est un milieu de passionnés, voilà. Celui que moi j'aime en tout cas, parce que après, c'est aussi un milieu où il y a de l'argent. Et qui dit argent dit quelques trucs un peu tordus par derrière. À mon avis, il y a beaucoup trop de compétition. Ce qui fait qu'on comprend plus rien. Enfin voilà, on ne sait plus les 4 étoiles, les 5 étoiles, il y en a trop. Il faudrait simplifier tout ça. Mais voilà, si pour résumer, c'est avant tout un métier où il faut une passion dingue pour pouvoir réussir. Il ne faut pas avoir peur de se lever tôt le matin et d'aller monter son cheval sous la pluie, dans le froid, quand il fait 2 degrés et qu'il tombe des cordes, quoi.
Comment vous pourriez expliquer concrètement à quelqu'un qui n'y connaît rien, l'équitation, le jumping de Bourg-en-Bresse ? Parce que c'est vrai qu'il y a les étoiles, les différentes épreuves, un petit peu comment on pourrait s'y retrouver si on ne s'y connaît pas du tout.
Alors, j'espère que l'émission est longue, hein, parce que c'est... non, plus sérieusement. Les concours, c'est assez facile. Plus il y a d'étoiles, plus c'est important. Voilà, le plus, c'est 5 étoiles. Il y en a une 50aine dans l'année dans le monde, un peu plus même maintenant. À Bourg-en-Bresse, on est dans un 4 étoiles. Ce qui veut dire que les barres sont un tout petit peu moins hautes que le 5 étoiles. On est sur du 1m50, 1m55 de barres, alors que sur les 5 étoiles, on est plutôt 1m60. Mais quand on voit les cavaliers présents ici à Bourg-en-Bresse, c'est un plateau de top niveau. On a quand même Roger Yves Bosch, champion olympique, Philippe Rosier, champion olympique. On a pratiquement tous les meilleurs jeunes français qui sont là. À l'exception de quelques Français, tous les meilleurs sont là. Il y a des bons étrangers aussi qui sont là. Carlos Lopez, le Colombien, est un cavalier de très haut niveau. Il y en a quelques autres. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous de haut niveau sportif. Et Bourg, on peut aussi le caractériser par sa convivialité. C'est un concours régional dans le bon sens du terme. C'est un concours international, hein, 4 étoiles, il y a des cavaliers internationaux. Mais qui a su garder son esprit régional, son authenticité. Voilà, c'est la 29e édition cette année. Quand on voit l'organisateur Alain Landais, Pascal, on voit, c'est des gens qui sont passionnés, qui entretiennent, qui ont su faire grandir leur concours aussi, hein, parce qu'il y a 3 ans, ils ont changé de lieu pour s'agrandir. Alors c'est différent, mais aujourd'hui c'est un concours qui correspond qu'à toutes les normes des grands concours internationaux qu'on voit dans le monde, clairement. Hein.
Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les cavaliers français ? L'année prochaine, donc, il y a les Jeux de Tokyo, 2024 Paris. Un petit peu, on en est où, nous, les Français ?
On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout.
On a quand même eu des médailles d'or à Rio.
Voilà, le problème, voilà, Rio, l'air de rien, ça fait déjà 3 ans. Les Jeux Olympiques de Rio, le titre olympique, c'était un truc incroyable. Inattendu aussi un petit peu, quelque part. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les cavaliers ont pratiquement plus... Les chevaux qu'ils avaient à cette époque-là sont partis, sont blessés, sont plus là. Et on est un peu dans un petit creux, là. Il n'y a pas eu de bons résultats au dernier championnat du monde aux États-Unis à Tryon. C'est compliqué. Il y a eu des changements aussi de sélectionneurs. Il y a vraiment un renouvellement, là, à la fois des cavaliers, avec une jeune génération qui arrive, et puis des chevaux, parce que le nerf de la guerre, c'est les chevaux. Et en ce moment, on n'est pas au top en France, quoi. Voilà, au niveau des chevaux, ils sont partis un petit peu partout. Et puis la complexité des circuits fait que y a des cavaliers sur le circuit Global Champions Tour, il y en a sur les Coupes des Nations, il y en a partout. Et ça disperse un peu tout. On a un petit peu de mal à voir où on en est actuellement. Voilà, mais il reste un an pour se refaire une santé et aller conserver la médaille d'or olympique.
Pascal Boutreau, rédacteur en chef adjoint d'Equidia, chaîne télé dédiée aux courses hippiques.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos en bref. Ce mardi, le 28 mai, au tribunal de Bourg, audience des 6 décrocheurs, décrocheuses des portraits présidentiels dans les mairies. Des actions pour, je cite, dénoncer l'absence de décision courageuse et nécessaire du gouvernement face au péril climatique et à l'urgence sociale. Ils risquent chacun 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ces prévenus sont tous des militants d'Action Non Violente, COP21, une branche d'Alternatiba, mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Le collectif Beaujolais Val-de-Saône, auquel appartient les 6 militants, organise une journée de soutien à Bourg-en-Bresse. À 12h30, rassemblement festif et non violent devant le tribunal. Plusieurs rendez-vous sont prévus au parking de la tannerie, comme des conférences, des concerts et des prises de parole d'associations. Après l'hypertension, la prévention des cancers de la peau, la CPAM de l'Ain organise une après-midi d'infos sur la santé du pied. Ça se passe le jeudi 6 juin au centre d'examen de santé de rue Pavé d'Amour à Bourg, de 13h30 à 16h30. Un podologue diplômé d'État sera présent pour examiner vos pieds. C'est ouvert à tous. Des derniers jours de Culturiosité, c'est le nom d'une balade artistique et culturelle. Ça se passe jusqu'à mercredi, le 29 mai, dans 6 communes du Sud-Rovermont, Sertine, Tossia ou encore Saint-Martin-du-Mont. Plus d'infos sur la page Facebook de K3B et sur grandbourg.fr. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à mes invités, à Clarisse, apprenti reporter pour Radio B. Et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.